Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport. Il a résisté jusqu'au bout dans le sprint final pour le titre. Manchester City reste roi d'Angleterre et prive Liverpool d'un sacre tant espéré depuis près de 30 ans. Grande page Premier League dans un instant avec notre spécialiste foot d'outre-Manche, Bruno Constant. Le Barça met un peu de baume sur sa plaie béante après le cataclysme de son élimination en Ligue des Champions. Un succès en Liga cet après-midi devant des socios pas trop rancuniers. Gros plan également sur l'Atlético de Madrid qui se prépare à voir partir un joueur phare du club, Diego Godin, son capitaine. Mazembe, trop puissant en RDC, nouveau sacre national pour les Corbeaux. On fera également un point sur le championnat gabonais à l'issue de la phase de poule. La NBA est bientôt à l'heure des finales de conférence. Deux équipes déjà connues, Golden State, c'est assez prévisible, et Milwaukee, pas vu à ce stade de la saison depuis près de 20 ans, les Bucks et leur star Giannis Antetokounmpo. Enfin, à quelques jours des mondiaux de taekwondo, nous irons en Côte d'Ivoire, où la discipline n'est pas traitée par-dessus la jambe, bien au contraire. Le pays est une pépinière de champions qui rêvent de suivre les traces des médaillés olympiques de 2016. Reportage en fin d'émission.
Mondial Sport sur RFI.
Ça n'était plus arrivé depuis 10 ans, c'est dire la qualité de l'exploit réalisé dans ce championnat le plus concurrentiel et le plus spectaculaire du monde. À l'époque, en 2009, c'était déjà Manchester qui essayait sa domination avec un triplé en Première Ligue, mais c'était United. Aujourd'hui, c'est bien Manchester City qui conserve sa couronne de roi d'Angleterre, épilogue d'un formidable duel à distance cette saison avec Liverpool. On rejoint tout de suite celui qui n'a pas perdu une miette de cet après-midi de folie, le consultant de Radio Foot International, Bruno Constant. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Christophe.
Les Citizens ont commencé par trembler un petit peu face à Brighton avant de s'imposer 4 buts à 1 et de conclure en beauté une saison magnifique qui peut d'ailleurs être encore plus belle.
Oui, effectivement, ça a été, en tout cas, l'après-midi avait quand même mal commencé pour les Citizens, alors que Liverpool menait Anfield face à Wolverhampton depuis la 17e minute grâce à Sadio Mané. Et ben c'est Brighton qui a surpris son monde en ouvrant le score face aux Citizens à la suite grâce à Aguero, à la suite d'un corner. On s'est leur demandé si la folie qui s'était emparée des clubs anglais en demi-finale de la Ligue des Champions cette semaine allait se prolonger sur cette 38e journée de Premier League qui était déjà riche en buts. Mais City, en fait, ne s'est pas laissé le temps de douter en égalisant 83 secondes plus tard grâce à Aguero, puis en prenant l'avantage juste avant la pause par Laporte sur corner. C'est ensuite Riyad Mahrez, l'international algérien, souvent cantonné au banc cette saison, mais titulaire surprise dans le 11 de Guardiola et qui était déjà à l'origine du deuxième but, qui a tué le suspense en inscrivant le troisième but et validé ce titre, avant évidemment que Gundogan ne signe ce quatrième but. C'est le quatrième titre de Manchester City, c'est le troisième en 7 ans. Et c'est également le premier club anglais à conserver son titre depuis Manchester United en 2009. Une saison absolument exceptionnelle. La saison passée, City avait inscrit 100 points, 98 cette année. C'est une saison exceptionnelle de la part de la formation de Guardiola. Titre absolument mérité pour sa saison.
Et City qui peut donc en plus faire le triplé championnat Cup, Coupe de la Ligue. Côté Liverpool, qui a gagné lui aussi face à Wolverhampton 2-0 sur un doublé de Sadio Mané, mais donc pour rien. On peut se dire qu'il y a encore moyen, bon, certes, de faire oublier cet échec national avec la prestigieuse Ligue des Champions, mais tout de même, Bruno, que de regrets de devoir encore patienter pour un titre en Première Ligue après avoir battu perdu une telle bataille, en ayant pourtant des statistiques incroyables.
Ouais, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé du côté de Liverpool, à l'image de cette saison complètement folle. Il y a eu 32 changements de leader en 38 journées. 195 points inscrits par City et Liverpool au total, c'est juste exceptionnel. Alors des regrets, il y en a oui forcément parce que Liverpool n'a jamais été aussi proche de remporter le titre. Des regrets, il y en a parce que Liverpool a réalisé la meilleure saison de son histoire en termes de points, c'est également la meilleure défense. Elle totalise le plus grand nombre de clean sheets, ses matchs sans encaisser de but. Elle possède deux des co-meilleurs buteurs du championnat, c'est juste incroyable. Et on en vient même à se demander si la malédiction ne poursuit pas cette équipe des Reds, qui avait déjà laissé échapper le titre en 2014. On se souvient évidemment de la glissade de Steven Gerrard, son capitaine. Faut espérer maintenant, surtout, que Liverpool ne perde pas tout. Et là, je fais évidemment référence à cette finale de Ligue des Champions qui l'opposera à un autre club anglais, puisque ça sera Tottenham. Mais voilà, dans l'ensemble, le peuple d'Anfield doit être fier de son équipe parce qu'elle a porté cette équipe assez exceptionnelle. Et surtout, elle a donné de l'émotion à son public et à beaucoup de monde, surtout en Europe.
Bruno, on n'oublie pas de parler du classement final des buteurs de cette saison anglaise. Ils sont trois à se partager ce titre avec 22 buts. Et en plus, ils sont tous les trois africains. Sadio Mané et Mohamed Salah pour Liverpool et Pierre-Emerick Aubameyang avec Arsenal. Ça aussi, c'est exceptionnel.
Oui, c'est incroyable. Et là encore, tout s'est joué lors de la dernière journée, puisque c'était Mo Salah qui était en tête du championnat avant cette 38e journée. Et Sadio Mané, comme Emerick Aubameyang avec Arsenal, ont inscrit tous les deux un doublé. Donc Mané avec Liverpool face à Wolverhampton et Aubameyang avec Arsenal face à Burnley. Ils ont rejoint Mohamed Salah en tête du classement des buteurs. Trois co-meilleurs buteurs, c'était pas arrivé depuis 1999 en Angleterre. À l'époque, c'était Hasselbank, Dwight York et Michael Owen. Ils avaient fini la saison avec 18 buts chacun. Mais évidemment, ça souligne en tout cas la formidable saison de ces trois joueurs africains pour leurs clubs respectifs. Et je donnerais peut-être à Mané encore davantage d'ampleur, qui a vraiment été le grand joueur de Liverpool avec Van Dijk, et qui par moment a un petit peu suppléé Mo Salah, qui a vécu un début de saison, une première partie de saison un peu compliquée. Et puis Aubameyang, il s'est clairement imposé dans cette équipe d'Arsenal aux côtés de Lacazette, Alexandre Lacazette, avec qui il forme un duo fantastique.
Merci beaucoup Bruno Constant pour toutes ces précisions. Donc sur le sacre de Manchester City en Première Ligue, la 36e journée de Ligue 1, où la lutte ne concerne pas que les places européennes, désormais, vous le savez, place quasi assurée dans les faits à Lille, vainqueur de Bordeaux 1-0, la deuxième place. À deux journées de la fin, le LOSC possède toujours 6 points d'avance, mais surtout une différence de but nettement supérieure à celle de Lyon, qui est allé battre Marseille 3-0 au Vélodrome, grâce notamment à un doublé de l'Ivoirien Maxwell Cornet. L'OM désormais définitivement privé de toute compétition européenne la saison prochaine. Et puis à l'autre extrémité du classement, c'est fini pour Guingamp, officiellement relégué en Ligue 2 après son match nul 1-1 dans le derby breton à Rennes. Les Rennais ont marqué grâce au Sénégalais Ismail Assar, l'un des trois finalistes, rappelons-le au passage, du prix Marc Vivien Fouet RFI France 24 qui sera décerné le 20 mai prochain. Hormis en Allemagne, il n'y a donc plus de suspense sur les noms des champions nationaux, mais on va quand même aller faire un petit tour en Espagne ce soir pour voir comment s'en est sorti le Barça, humilié à Liverpool en Ligue des Champions. Les Catalans qui disputaient leur dernier match de la saison à domicile contre Getafe sous les yeux de François David. Bonsoir François.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Le Barça a gagné 2-0 devant un public, bon, on va dire assez sage, hein, pas très rancunier finalement.
Non, ça a été étonnant, c'était entre indifférence, encouragement d'une partie du public, sifflet pour une autre partie du public. Bon, il faut dire qu'il n'y avait que 57 000 spectateurs aujourd'hui sur 98 000 possibles. Il y avait beaucoup de spectateurs britanniques, beaucoup de supporters asiatiques. Il n'y avait pas le noyau dur des supporters du Barça. Bah, il y avait une exceptionnelle journée sur Barcelone et on sentait que les gens n'avaient pas très très envie de venir ou du moins encourager les vaincus de Liverpool. Alors j'ai trouvé effectivement le contenu clément, très clément, voire trop clément. Coutinho, l'une des premières cibles de la vendetta locale et populaire, a été sifflé, mais un tout petit peu. À chaque fois qu'il touchait le ballon, un petit peu sifflé. Il a été applaudi en revanche quand il est sorti sur blessure. Rakitic aussi, qui était dans l'œil du cyclone, a été applaudi. Il y a eu quelques sifflets effectivement avant que le Barça double le score face à Getafe, qui est une bonne équipe, hein, qui est une équipe qui joue sa qualification pour la Ligue des Champions. Mais au final, une victoire pas si facile que ça, car le début de match est vraiment pour Getafe. Mais encore une fois, Christophe, le Barça s'en est remis à Lionel Messi. Très très bon en deuxième mi-temps. Mais bon, c'était pour une ambiance un petit peu à la Disneyland, hein, j'ai envie de dire, cet après-midi. Et on sentait que les joueurs maintenant ont un seul objectif, c'est de remporter la Coupe du Roi le 25 mai prochain contre Valence. Cette finale à Séville.
Alors justement, les dirigeants d'ici à cette possible victoire en finale de Coupe du Roi continuent de s'activer sur l'effectif de la saison prochaine. Et devinez qui revient sur les tablettes. Un certain Antoine Griezmann, évidemment. Alors qu'est-ce qui fait penser que cette année serait ou sera la bonne pour un transfert vers l'Atlético?
Je pense que ça va être la bonne cette fois, Christophe. C'est un bruit qui court depuis quelques mois déjà à Barcelone. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, je pense vraiment que Griezmann croyait vraiment au projet de l'Atlético de Madrid l'an dernier. C'est pour ça qu'il avait prolongé son contrat. Il voyait que la finale de la Ligue des Champions allait se dérouler au Wanda Metropolitano, le nouveau stade de l'Atlético. Mais finalement, échec cette saison. Et je pense que Griezmann a compris qu'il était beaucoup plus important pour lui peut-être d'aller au Barça, qui est un club avec beaucoup plus de tradition européenne, un club de plus grosse envergure en plus mondiale et marketing que de rester finalement à l'Atlético. Alors ça va convenir évidemment au Barça. Griezmann a 28 ans, c'est un joueur expérimenté, un champion du monde. Le but, c'est de faire Messi en numéro 10, juste derrière Luis Suarez et Antoine Griezmann. Et je pense aussi, pour finir, Christophe, que pour l'Atlético de Madrid, ça va être très bien, parce que 120 millions de transferts, c'est très important. Et surtout, l'Atlético va économiser 23 millions de salaires nets d'impôts de Griezmann à l'année. Donc tout le monde devrait être content. Et Griezmann, normalement, Christophe, devrait rejoindre le Barça la saison prochaine.
Merci beaucoup, François David, en direct de Barcelone. Griezmann sur le départ, affaire à suivre. Et ça fait évidemment beaucoup parler à l'Atlético. Vous allez d'ailleurs l'entendre dans un instant. En revanche, Diego Godín sur le départ, ça c'est une affaire réglée. L'emblématique capitaine uruguayen des Colchoneros a en effet annoncé cette semaine qu'il s'en allait après 9 saisons, faute d'accord avec les dirigeants sur une prolongation de contrat. De quoi rendre le club assez actif sur le marché des transferts. Reportage Pierre Chaperon.
Musique douce, image d'archives, comme souvent en Espagne, le départ d'un joueur emblématique se fait avec grande émotion. Diego Godín, arrivé au club en 2010 à 24 ans et capitaine cette année, n'y a pas dérogé. L'Uruguayen qui ce soir, sur la pelouse du Metropolitano, comme mardi, lors de l'annonce de son départ, est apparu ému.
On s'est tous donné rendez-vous ici parce que, comme vous pouvez le deviner, je vous annonce que ce sont mes derniers jours, mes derniers matchs à l'Atlético de Madrid.
Pardon,
c'est difficile. Je voulais vous communiquer cela. Je voulais que ça vienne de moi pour toute la gentillesse que je vous dois à tous. L'affection que j'ai pour ce club, ce blason, ce maillot. Et parce que l'Atlético n'est pas seulement un club, mais une famille.
Et parce que, pour moi, c'est pas seulement un club.
Une famille qui perd au fur et à mesure ses membres, puisque Lucas Hernandez est déjà parti au Bayern, où il percevra quelques 17 millions d'euros bruts par saison. Philippe et Luis en fin de contrat et Juan Fran sont sur le départ également. Bilan, toute une défense à repenser. Autre souci, les clauses de transfert. Seulement 70 millions pour Rodrigo, dragué par le Bayern Munich, et 150 millions pour Saúl, qui intéresse Manchester City. Autre épine dans le pied, Antoine Griezmann. L'information d'un départ vers Barcelone est revenue dans les journaux espagnols depuis un mois. Le transfert semble en bonne voie, il ne manque seulement que la signature du champion du monde. Pourtant, pour l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, il n'y a aucune crainte, le numéro 7 colchonero va rester.
Le sujet Griezmann est apparu dans certains médias sur un possible départ vers Barcelone. Je continue comme toujours de dire, je le vois en bonne condition, heureux avec ses coéquipiers. Après, nous ne sommes pas évidemment dans sa tête pour savoir ce qu'il s'y passe, savoir ce qu'il pense faire plus tard. Nous, on croit qu'il continuera avec nous. Nous n'avons aucune crainte.
Le doute s'installe dans tous les cas et l'élimination contre la Juventus Turin en Ligue des Champions a changé beaucoup de choses. Pour Antonio Ruiz, journaliste à la COPE, ces mouvements perpétuels sont quelque chose de déroutant au vu du prestige du club.
C'est quelque chose de difficile à comprendre. Maintenant, l'Atlético est un club qui paye très bien ses joueurs. C'est bizarre qu'il y ait toujours certains d'entre eux qui se demandent s'il reste ou non, quand on voit que Griezmann est le deuxième joueur le mieux payé de la Liga. Je pense que cette année, Griezmann et tous les autres pensaient peut-être qu'ils allaient jouer la finale de la Ligue des Champions ici, au Metropolitano. Peut-être est-ce la faute du club qui ne réussit pas à garder ses joueurs, à les convaincre de rester, à les faire adhérer au projet. Des choses qui me paraissent aussi importantes que le salaire.
Un an après, le feuilleton Griezmann terminé par un documentaire sur une chaîne payante espagnole, l'Atlético de Madrid semble encore affronter un été agité où le club devrait subir les assauts des grands d'Europe. Reste à savoir si la direction pourra résister. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Allez, on passe au football africain avec vous, Frédéric Suto. Bonsoir.
Bonsoir, Christophe.
On démarre avec la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe, sacré champion.
Oui, les Corbeaux reprennent le titre abandonné à l'AS Vita Club l'an passé. Le tout-puissant Mazembe qui a battu cet après-midi les Dauphins Noirs de Goma 3-0. Il compte 3 points d'avance sur Vita Club qui en a terminé avec le championnat, alors que Mazembe a encore 2 matchs en retard à jouer. Seule une décision administrative pourrait priver Mazembe du titre. Du côté de Lubumbashi, en tout cas, la fête a déjà commencé, d'autant plus que le président du club, Moïse Katumbi, en exil politique depuis 3 ans, pour des raisons politiques, devrait rentrer au pays dans un peu plus d'une semaine. Reportage Pascal Mvangala.
Déjà ce dimanche 12 mai 2019, il leur fallait une victoire face à Dauphin Noir de Goma pour prendre la distance sur Vita Club, leur poursuivant direct. Les Corbeaux l'ont fait à Kamalondo, 3-0 grâce à un doublé de Ben Malango. Resté hors des terrains, 3 mois durant, l'avant-centre de Mazembe peut enfin se sentir libéré.
C'était un peu difficile pour moi, je n'ai pas digéré après 3 mois d'absence vraiment sur les terrains. J'étais un peu inquiet vraiment pour ça. Après un doublé aujourd'hui, vraiment, ça libère un peu le mental. Je suis un peu satisfait de ce soir.
L'autre buteur, c'est Elia Meshak, entré à la place de Chico Ushindi à la 66e minute sur un magnifique coup franc à plus ou moins 20 mètres. L'international congolais avait besoin d'oublier l'élimination en Ligue des Champions il y a une semaine.
La motivation est qu'on lâche rien. J'espère qu'avec la Coupe des Ligues des Nations congolais, ça va nous faire un peu oublier notre élimination à la Ligue des Champions.
Avec désormais 77 points, plus 67 de différence de but, devant Vita Club 74 points, plus 45 différence de but, mais encore 2 matchs à jouer pour Mazembe. Le championnat est certes plié, mais pour David Mwakasu, coach adjoint des Corbeaux, il faut gagner les 2 matchs restants pour se dire champion.
On s'est décidé de jouer tous les matchs qui restent pour les 3 points, afin d'être à l'aise comme champion, quoi. C'est-à-dire de ne pas être bousculé ou bien être mis en pression. Ça va un peu nous consoler, ça va sauver la saison. Parce que là, on termine champion et ipso facto, nous sommes directement en Champions League prochaine.
Toutefois, l'organisateur a annoncé la cérémonie de clôture de la saison et la remise du trophée à Mazembe le 18 mai prochain à l'occasion du dernier match contre le Football Club Renaissance du Congo à Kamalondo. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Au Gabon, Frédéric, c'est la phase régulière du championnat qui vient de se terminer.
Oui, ce qui ne veut pas dire que l'on connaît le champion, hein, car il y a des play-offs au Gabon pour les 6 équipes les mieux classées. Alors, ces play-offs ont débuté cette semaine, mais cette formule de championnat, vous allez l'entendre, ne plaît pas à tout le monde, avec notamment des équipes qui ont été réparties en début de saison en plusieurs groupes sur des bases géographiques. À Libreville, Fritz Koum.
La LINAF, organisatrice de l'épreuve, a réparti les 14 clubs en 4 poules sur des bases géographiques, 2 poules de 4 clubs et 2 de 3 clubs. L'ancien capitaine des Panthères estime que cette formule ne rend pas les clubs compétitifs. Paul Kessani.
L'objectif d'un championnat, c'est de le rendre compétitif. Il faut qu'il soit compétitif pour permettre aux joueurs de progresser. Avec le nombre de matchs aujourd'hui, il est évident que dans un effectif de 25, il y a des joueurs, par exemple, qui n'auront peut-être joué que 4 matchs ou 3 matchs.
Premier de la poule A de Libreville, l'entraîneur du CMS affirme que ce n'était pas facile. Brice Ondo.
Les équipes qui ont dominé au début, à un moment donné, se sont retrouvées en difficulté. Donc, pour dire la situation difficile qui a été la nôtre de gérer le championnat sous cette formule.
Invité surprise de cette phase, Akanda FC, malgré la perte du joueur Herman Tinga, décédé en plein match, a su trouver les ressources morales pour devancer le CF Mounana. Comme la saison dernière, le CF Mounana a échoué. La faute à la jeunesse du groupe. Hervé Patrick Opianga, président du club.
Nous avons renouvelé l'équipe à pratiquement 90% par rapport à la jeune pousse du centre. C'était un pari osé, on n'a pas été ridicule.
Pour sa première saison en première division, AS Dikaki de Langoni, malgré un mauvais départ, 4 défaites en 4 matchs, a assuré son maintien. La présidente Gisèle Itumba.
Satisfaction totale. Je l'avais dit au début, je visais le maintien et Dieu m'a fait grâce de me maintenir, de rester pour la saison prochaine.
Si cette formule avait pour but de limiter les déplacements, la Ligue doit revoir sa copie si elle veut la reconduire. Estime René Demezo-Bian, président du comité de surveillance de l'Union sportive de Bitam.
Faire qu'il y ait un équilibre au niveau des différentes poules, si ce sont des poules qui devaient être maintenues, pour que toutes les poules aient à peu près les mêmes niveaux de déplacement, en regroupant plus de provinces entre elles et en faisant qu'en termes de déplacement, il y ait cet équilibre-là.
La Ligue pense déjà à la formule du championnat pour la saison prochaine. Le président Brice Ndjambou Mbika.
Je pense que la formule que nous mettrons certainement l'année prochaine et que nous proposerons aussi bien à la FEGAFOOT qu'au ministère des Sports sera une formule qui inclurait l'existence des play-offs.
Signalons que la phase des play-offs a débuté mercredi dernier. Elle se joue en aller simple. Fritz Koum, Libreville, RFI.
Et hier au Gabon, pour être complet, Mangasport de Moanda a remporté la première coupe de la Ligue du pays. Première édition, victoire en finale contre l'Ozosport de l'Astrouville 2-0.
Mondial Sport sur RFI.
La séquence basket à présent dans Mondial Sport. La NBA a pris le dernier virage de la saison. Les finales de conférence sont en train de se dessiner. Plus que quelques heures avant de connaître l'intitulé exact des affiches. Absolument rien n'est fait concernant les deux matchs restants des demi-finales à l'Est comme à l'Ouest. On rejoint notre correspondant sur la côte Est des États-Unis, Michael D'Acosta. Bonsoir Michael.
Bonsoir.
Le premier qualifié a été d'abord à l'Est avec les Bucks de Milwaukee du grec Giannis Antetokounmpo qui affrontera le vainqueur du match 7 entre les Raptors de Toronto et les Sixers de Philadelphie.
Oui, avec un Giannis Antetokounmpo qui a encore un peu plus justifié sa place de favori dans la course au titre de meilleur joueur de la saison, de MVP. Lui qui a vraiment marché sur ses pauvres Boston Celtics. Alors les Celtics avaient bien gagné le premier match à Milwaukee. Mais l'équipe du grec a explosé la formation de Kyrie Irving en remportant les quatre rencontres suivantes de manière assez impressionnante. Alors il était monstrueux des deux côtés du terrain. Celui qu'on surnomme le Greek Freak attend désormais l'adversaire suivant, pardon, qui sera soit les Raptors de Toronto de Serge Ibaka et de Pascal Siakam, soit les Sixers de Philadelphie de la superstar Joel Embiid. Le dernier match décisif a lieu cette nuit, aux alentours de 2h du matin, pardon, pour un bilan final de conférence entre ces deux franchises qui se sont répondues coup sur coup lors de la série de playoffs en cours. Toronto légèrement favori car les Raptors jouent à domicile ce match 7, mais la grande question est de savoir l'état de santé du Camerounais Joel Embiid qui semble souffrir d'un virus à l'estomac depuis plusieurs jours et qui joue très très diminué. Donc réponse à demi pour savoir qui bataillera face aux Bucks de Milwaukee pour une finale en place NBA.
De l'autre côté du pays, les Golden State Warriors ont su se défaire des Rockets et ont validé leur billet dès vendredi soir en attendant leur adversaire au tour suivant qui se joue entre les Blazers de Portland et les Denver Nuggets en ce moment même dans le Colorado.
Oui, il reste 4 minutes dans le Colorado et c'est la petite surprise pour l'instant. Portland est devant de 4 points, 86-82. Alors, énorme, Golden State Warriors, on peut les définir de cette manière. Les doubles champions en titre se sont défaits des Rockets de Houston, qui avaient pourtant recollé à 2 victoires partout après 2 défaites initiales dans la banlieue de San Francisco. Alors, malgré la blessure de KD, de Kevin Durant lors du match 5, Steph Curry et sa bande se sont rappelés au bon souvenir des victoires avant l'arrivée de Kevin Durant pour s'imposer 2 fois de suite et envoyer James Harden et ses coéquipiers en vacances. À noter que Steph Curry, auteur de 33 points lors du match 6, tous inscrits en seconde période, a revêti son costume de super-héros et l'objectif du triplé pour les hommes de Steve Kerr reste encore possible. Sur l'ombre au tableau, la blessure de Kevin Durant, qui a été touché au mollet, qui pourrait louper entre 10 à 15 jours de compétition. Alors entre Nuggets et Blazers qui se jouent ce dernier ticket, la tâche sera très très rude, quelle que soit l'équipe, que ce soit celle de Damien Lillard, les Blazers ou de la star serbe Nikola Jokic des Nuggets, souvenir de très très lourdes défaites en saison régulière qui doivent être encore dans toutes les têtes. Les Nuggets avaient perdu de 38 points courant mars à Golden State et 34 points d'écart défaite de l'équipe basée en Oregon, les Blazers, face aux Warriors en saison régulière. Ce sera une montagne à affronter pour les deux adversaires qui affronteront les champions en titre.
Et puis un petit point, Michael, sur les Africains qui brillent et qui peuvent encore rêver de finale NBA et de titre.
Oui, alors ce qui est important à noter, c'est que tous les joueurs africains encore présents dans l'effectif qui disputent les playoffs ont tous un rôle très très important. D'abord, Joel Embiid, même s'il est très diminué par rapport à son virus à l'estomac, il brille quand même par sa défense et son charisme, lui qui est le patron de l'équipe. Pascal Siakam, après un match 4 un petit peu diminué avec une blessure au mollet, il a bien récupéré et vraiment confirme son statut, son excellente saison avec Serge Ibaka qui sort du banc, sixième homme qui a un rôle inhabituel pour lui et qui apporte toute son expérience. Et le dernier d'entre eux, le Nigérian Alfarou Kaminu, pilier de la défense de Portland, qui réalise des playoffs de très très haut vol. Sans oublier bien sûr les origines nigériennes de Giannis Antetokounmpo, que tout le monde connaît. Dans tous les cas, alors l'Afrique, on sera encore dans les débats jusqu'au bout des playoffs, voire peut-être remporter un titre de champion.
Merci beaucoup, Michael D'Acosta. Donc la fin de ces demi-finales de conférence sera donc à suivre la nuit prochaine en direct des États-Unis. On parle de taekwondo à présent dans Mondial Sport. Frédéric, les championnats du monde débutent mercredi à Manchester.
Oui, les Africains sont attendus, hein, tout particulièrement les Ivoiriens, car la Côte d'Ivoire compte dans ses rangs certains des meilleurs mondiaux. Ruth Bagby, championne du monde en titre. Tchèque Cissé, champion olympique à Rio en 2016. Eh bien, leur réussite a fait des émules. Hein. Derrière le foot, le taekwondo, qui est un art martial, est devenu en Côte d'Ivoire le deuxième sport du pays. Un engouement qui touche toutes les classes sociale, comme vous allez l'entendre dans ce reportage signé Yuen Gourli.
Ok, tu tombes pas, il va venir, tu lui donnes, il va venir. Ok, c'est bien.
Sur le bord du tapis, l'entraîneur Jean-Kévin Lelou est à fond. Son protégé d'à peine 10 ans donne absolument tout. Des coups de pied au casque et des coups de poing sur le plastron, toujours précédé du fameux kiap.
On appelle ça le kiap, le cri.
On relâche tout pour faire quoi? Pour effrayer l'adversaire.
Par exemple, mon petit qui est là, il est fan de foot, mais il aime le taekwondo. Pourquoi? Parce qu'il arrive à s'exprimer.
Dans la salle polyvalente de Trècheville à Abidjan, les jeunes ne veulent pas devenir les futurs Didier Drogba ou Nicolas Pépé, mais plutôt suivre la trace des grandes stars du taekwondo ivoirien, les deux médaillés olympiques en 2016, Ruth Bagby et Cheikh Cissé. Christopher Agbidi, 17 ans, est l'un d'entre eux.
Je me suis beaucoup entraîné, je pense que je peux aller plus loin, je peux réussir à avoir mes rêves, les rêves que j'ai tant rêvé. Je peux parvenir à ça, je peux réussir à voyager comme Cheikh Salah, devenir mieux que lui.
Lors de cette compétition amateur, les médaillés d'or sont choisis pour affronter les meilleurs taekwondoïnes du pays et peut-être faire partie de l'équipe nationale jeune, le tout sous l'œil aguerri de Jean-Luc Aywodan, arbitre national.
Notre objectif, c'est d'amener beaucoup d'athlètes sur le plan international et de préparer déjà, nous sommes déjà en train de préparer la relève pour ne pas que le train soit arrêté au milieu du chemin. Nous avons déjà pas mal d'athlètes de haut niveau qui sont déjà prêts et je vous dis que la relève est déjà assurée.
Ce jour-là, plus de 500 athlètes s'affrontent, un record pour ce genre de compétition. Si le taekwondo est pratiqué en Côte d'Ivoire depuis les années 70 grâce à la politique de promotion internationale sud-coréenne, l'art martial est populaire depuis peu. En 10 ans, le nombre de licenciés est passé de 16 000 à 40 000. Mais pour en arriver là, la fédération dirigée par le très actif Daniel Cheikh Bamba a dû dépoussiérer l'image d'un sport de voyous, en passant par les élites et l'éducation. Olivier Avoa est président de ligue.
Le taekwondo, c'est un art martial, c'est vrai. Donc le martial, de façon basique, est perçu comme un sport pour un certain type de personnes, voyez-vous. Et on a réussi à le montrer qu'en fait, au taekwondo, il y a des élites. Il y a des élites qui pratiquent le taekwondo. Le président lui-même, c'est un ministre. Moi, je suis chef d'entreprise. On met en exergue les valeurs que le taekwondo donc véhicule. La discipline, le civisme, l'abnégation, le courage.
Des qualités éducatives qui séduisent aujourd'hui de nombreux parents. Les principaux inscrits ont aujourd'hui entre 4 et 6 ans. Certains enfants vont donc au taekwondo avant d'entrer à l'école. Depuis que Fatou Koné a poussé ses trois petits sur les tapis, la maison est plus calme.
J'ai inscrit mes enfants au taekwondo parce que ça leur permet de s'épanouir et puis d'évacuer le stress et puis la colère qui est en eux. Le taekwondo, vraiment, depuis que je les ai inscrits, ils sont un peu plus calmes maintenant. Je veux même m'inscrire moi-même.
Chez les professionnels, la Côte d'Ivoire est de loin le meilleur pays d'Afrique en la matière et présentera dès mercredi 6 athlètes lors du mondial à Manchester avec l'objectif de décrocher au moins 4 médailles. Ce serait un record. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Univers totalement différent pour fameux ce mondial sport, Frédéric, c'est le week-end de la pétanque.
Oui, la semaine dernière, nous vous parlions du Bénin qui a obtenu l'organisation du mondial de pétanque 2022. Et bien avant cela, le mois prochain, mois de juin, le Togo, voisin du Bénin, va accueillir pour la première fois les championnats d'Afrique de pétanque. Hein, la pétanque comme le taekwondo, finalement, les Africains font partie des meilleurs mondiaux. Le Béninois Guy Tronou, cadre de la Confédération africaine des sports de boules, se félicite de voir les meilleurs du continent au Togo en juin prochain.
Organiser cette compétition pour la sous-région, c'est également une bonne chose parce que vous avez le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina, tous ces pays qui sont limitrophes, donc il va y avoir beaucoup de monde. Le Togo n'a pas encore participé à un championnat du monde et nous pouvons dire que le Togo se situe peut-être dans les 10 nations des meilleures, quoi. Sur le plan continental. Le président de la Confédération africaine des sports boules veut faire une promotion de la pétanque au Togo parce que bon, c'est aussi un pays voisin au Bénin. Ce sport déjà a pris un peu de l'ampleur au Bénin. Puis bon, si toutes ces nations-là viennent au Togo, c'est une très bonne chose pour le tourisme. Donc le Togo est nanti.
Voilà le Béninois Guy Tronou de la Confédération africaine des sports de boules, propos recueillis à Lomé par Comlan et Clou.
Merci beaucoup Frédéric. Une dernière info en bref avant de se séparer pour être tout à fait complet. La victoire de Novak Djokovic au Masters 1000 de Madrid, le numéro 1 mondial a battu le grec Stefanos Tsitsipas en 2-7, 6-3, 6-4. Et puis Lewis Hamilton qui reprend la tête du championnat du monde de Formule 1 après sa victoire dans le Grand Prix d'Espagne devant son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas. Mondial Sport, c'est terminé. Merci Valentin Vaner et Laurent Philippot pour la réalisation. Dans un instant, 24 heures en France, Romain Ouzoui, bonne soirée.